suppose qu'on utilise la, le pont du Brest pour parler de Philippe Cadic, si vous êtes d'accord.
Voilà.
Est-ce que, sans doute la plupart des gens connaissent très bien Cadic, mais c'est sans doute pas tous. Est-ce que vous nous présentez un peu?
Alors déjà, son nom c'est Philippe Cadic, Philippe Dick, Dick. Il n'y a qu'en France qu'on l'appelle Philippe Cadic. On ne dit pas F. Kennedy ou F. Céline. Donc c'est son deuxième prénom qui me drague. Pour vous présenter brièvement Philippe Cadic, 1928-1982, quelques chiffres, une quarantaine de romans, 200 nouvelles, 12 films adaptés de son œuvre. Et une présence obsédante. Hein. C'est le premier écrivain de science-fiction à être publié dans l'équivalent de la Pléiade aux États-Unis. Il est traduit dans quasiment tous les pays du monde. L'intégralité de son œuvre a été traduite en France. Que ce soit ses romans publiés de son vivant ou les manuscrits qu'il n'avait pas réussi à passer durant sa longue carrière. C'est donc à la fois une énigme, parce que c'est voilà, pourquoi lui, mais c'est aussi une espèce de phare qui n'a pas réellement de descendance, au sens où on peut dire il y a un nouveau public qui écrit maintenant, mais une influence qui se retrouve disséminée là aussi au cinéma, en science. En littérature générale, en jeux vidéo, qui nous reste, qui persiste à nous interroger à travers les thématiques qu'il a développées durant son œuvre. Trois thématiques principales. Qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce que le réel? Et finalement, c'est la grande question, c'est qui suis-je? Donc, on étudie dans des universités prestigieuses britanniques. On le trouve également dans des collections très bon marché. Il ne cesse de revenir. Comme l'a joliment écrit Ariel Kirou, nous vivons actuellement dans les mots d'un écrivain de science-fiction. Comme si notre époque ne parvenait pas à dépasser certains de ses cauchemars, alors qu'il a écrit ses livres quand l'internet n'existait pas, quand les mondes virtuels n'existaient pas, alors qu'il n'a pris que deux fois dans sa vie du LSD, et que il a, oui, une dernière chose, on a quand même, il y a 5 biographies qui ont été écrites, dont une en France par Emmanuel Carrère, je suis vivant et vous êtes mort. Donc voilà, l'image même de l'écrivain qui maintenant est considéré comme un écrivain, comme étant un des plus grands écrivains américains, alors que de son vivant, il gagnait 3 francs 6 sous en publiant un manuscrit dans des collections à très peu de marché. Enfin, pas dans un.
De quoi il fait la rencontre pour vous avec Philippe Cadic, c'est récent, c'est vieux, enfin, c'est parce que, enfin, j'explique pourquoi je pose la question. Moi, quand j'avais entre 15 et 20 ans, j'entendais parler de Cadic, j'avais encore jamais lu Cadic. Et c'était alors, on décrivait, parce que je pense qu'il y avait eu à l'époque un article qui était sorti dans quoi, c'était dans Rock'n'Folk, que je ne sais plus, voilà, du coup c'était. Donc on découvrait Cadic, et alors Cadic était décrit comme l'auteur défoncé, l'auteur où il fallait faire attention en lisant parce que ça pouvait vous chambouler la tête, ce que je pense être vrai, mais avec une aura assez mystérieuse et flippante même. Et je pense que tout ça, c'est encore du folklore et que c'était l'époque, c'était des trucs comme ça. Mais en effet, il n'a pris que deux fois le LSD, je pense qu'il a été terrifié. Et voilà. quand on dit substance morte, c'est pas avec la politique de la drogue du tout. Enfin, même si, en effet, c'est très bien, c'est terriblement bien raconté, mais enfin, je sais pas, moi, c'est un écrivain qui provoque toujours pour être honnête, j'adore Kadi, que je refuse à tout lire Kadi comme un seul livre. Parce que chaque fois que j'en lis un, c'est une expérience intellectuelle, sensible et physique. Substantiellement, à la fin, j'étais épuisé. J'étais épuisé, j'ai rarement vécu ça comme une épreuve physique. Il arrive tellement à nous emmener, à nous capter dans une respiration qui est à la fois effrénée et douloureuse et là, par contre, cauchemardesque. Arrivé à la fin du livre, on est quand même assez épuisé pour lire une dernière partie où moi j'en ai pleuré après, j'avoue, où il parlait de tous ses camarades, toutes les personnes qu'il a connues et qui sont morts, qui ont perdu la tête, qui n'approcheront plus, entre guillemets, la réalité telle qu'elle est là. Et voilà, je suis toujours très étonnée. Une fois, je suis rentrée chez parce que je ne veux pas nommer la marque, mais un opérateur téléphonique qui avait utilisé un terme, c'est pas ubique, c'était, je crois, unique. Ils avaient juste changé une lettre et il y avait une dame qui accueillit les gens dans le magasin. Et je suis quand même étrange. À une lettre près, c'est Upique de Philippe Kadic. Je suis quand même Kadic, je suis désolé. Et elle me dit, elle avait 20 ans. Hein. Oh, c'est incroyable. Je l'ai lu et c'est vrai. Et c'est là, terreur. Et tout à coup, voilà, tout cet opérateur, tout se mélanger, j'ai eu complètement bloqué. J'ai pas insisté. Voilà, il est plein de moments comme ça. Et quand j'ai lu Radio Libre à Lemus, j'étais en train de tourner un spectacle que vous avez vu, Jérôme, sur le développement durable, qui est assez politiquement engagé, militant. Et la camarade avec qui je travaille est déprimée un peu ce jour-là, parce que c'est vrai que des fois. Alors évidemment d'avoir de l'entrain tous les jours, des fois on a des échanges qui sont avec le public où on se dit que les choses sont à la fois très positives mais que ça va mettre du temps pour changer ce monde et que nous puissions tous survivre. Enfin tous surtout survivre, on sait qu'il y en aura qui survivront, mais tous c'est difficile. Et je dis mais tu sais, c'est comme on n'est pas des héros, enfin voilà, on fait ce qu'on peut, c'est comme des graines qu'on jette, et puis ça pousse, et ça ne pousse pas, mais une graine, des fois, ça se déclenche très longtemps après, et cette discussion se termine, et je retourne vite retrouver mon livre, un lieu libre à venir, et là, je lis, c'est comme des graines, on les jette, on ne sait pas si ça pousse, et voilà, et alors là, je me suis dit, non, là, ça devient carrément bizarre, voilà, et j'ai tout le temps des choses comme ça, et je pense que je ne dois pas du tout être la seule, des rendez-vous inattendus avec lui.
Il y a peut-être aussi parce que je me suis tant structuré et cultivé que ce qu'on vient de voir. Par exemple, Blade Runner est. Discours de la méthode des lettres de Marquis Newcastle, où Descartes, à une époque où on a même pas inventé le Presturel, imagine une sorte de test de Turing, c'est-à-dire un test qui permettrait d'identifier une intelligence artificielle si elle était sous la forme d'un automate animal ou d'un automate humain, Descartes. Hein. Et comme par hasard, dans Blade Runner, où il est question de réplique, c'est-à-dire de robots à figure humaine, le héros, le tracker de ces robots s'appelle Rick Descartes, René Descartes. Par exemple, les graines, c'est Cicéron dans les Tusculanes, qui utilise la première fois cette très implantée de façon intellectuelle. Donc il faut aussi calmer les coïncidences. C'est aussi quelqu'un qui est extrêmement.
Je sais justement que c'est tellement. Mais je trouve ça amusant. Enfin, c'est vraiment très amusant. Enfin, tu vois, enfin, à vivre, c'est très surprenant. Ouais. Mais c'est dans l'interview aussi qu'il a fait filmer. Il décrit aussi que par rapport à ses générations, ses camarades lisaient très jeunes, ses camarades écrivains écrivaient très jeunes, lisaient très jeunes des livres de science-fiction, alors que lui lisait la littérature française. Et que c'est aussi pour ça qu'il a, qu'il a amené vers un espace autre que la science-fiction plus classique de sa jeunesse. Non,
et puis c'était un jeune homme qui a vécu à Berkeley, en Californie, et qui fréquentait les milieux intellectuels. Donc qui était à cheval entre deux mondes, à la fois un monde légitime, qui était celui donc, des milieux universitaires, et le monde honteux de la science-fiction, qui, je vous rappelle, était publié dans des petits livres à 4 sous, hein, des Pulps, qui c'était donc après-guerre, donc c'est le papier était cher, donc c'était vraiment un papier vraiment économique. Donc des objets livres, hein, ne viennent de Valérien. Donc que penser du texte qui est imprimé dessus? Et c'est quelque chose dont il a toujours souffert. Dick a essayé de publier des livres de littérature générale, il en a écrit 7, il y en a un seul qui a été publié dans les dernières années de sa vie par un petit éditeur, mais ils ont tous été refusés. Mais par contre, dès qu'il proposait un roman de science-fiction, vous savez, il s'était pris de suite. Donc il y a toute une frustration chez lui pendant des années de se dire ce que j'écris c'est de la, parce que voilà pourquoi est-ce que quand je veux faire quelque chose de différent, personne n'en veut. Et il a tendu progressivement, et c'est ce qui à mon avis assure la pérennité de son œuvre, alors que beaucoup d'auteurs de sa génération, quand on les lit, sont maintenant perçus comme datés ou obsolètes ou avec un style vieillissant. Lui, il a tendu vers la fusion. On évoquait Thomas Pynchon, il a été Pynchon, le grand Pynchon. Dans la fusion d'avoir des thèmes de science-fiction, mais d'incorporer des mécanismes d'écriture propres à la littérature générale. Et de mélanger ainsi progressivement, de plus en plus. Et ces derniers livres ont fait vraiment la différence entre qu'est-ce qui est science-fiction, qu'est-ce qui est littérature générale. Il est symptomatique qu'un de ses chefs-d'œuvre, Ubique, en France, est publié chez 10-18. Mais il n'y a pas la mention science-fiction en couverture. Donc, quelqu'un peut aller chez son libraire préféré et l'acheter sans savoir de quoi, et avoir le livre qui, dans sa première édition, était dans une collection de science-fiction avec la couverture tapageuse, criante, de rigueur. Donc là, on voit bien que le livre et le texte a eu une destinée totalement différente que ce à quoi sa première édition semblait le destiner.
C'est pareil. Moi, je pense que c'est deux auteurs pour des raisons différentes. Mais pour revenir à Dick, bon, d'abord, il faut quand même, pour être tout à fait honnête, par le fait d'écrire dans des collections de science-fiction, tout n'est pas d'une égale valeur. Il y a des romans qui sont franchement écrit parce qu'il faut bien manger.
Mais c'est
il
l'a reconnu.
Il a reconnu lui-même, c'était l'obligation du genre. Non, j'étais en train de penser à la tête de l'américain amateur de science-fiction qui tombait effectivement dans une collection Pulp sur Ubik, juste après avoir lu une histoire de martien soviétique en restant aux États-Unis. Je me dis, il a dû avoir un léger sentiment de désorientation, parce qu'effectivement, ce qui me semble, tu l'as bien évoqué, parce que ce à quoi je suis plus sensible aujourd'hui en tant que lecteur, c'est l'intuition baudrillardienne, enfin de Baudrillard, de Bord, sur qui vient théoriser, alors puisque ce n'est pas des lecteurs de Dick à ma connaissance, Baudrillard peut-être, mais de Bord c'est sûr que non, sur qu'est-ce que notre réalité. C'est notre réalité, quelle en est la perception qu'on en a, et cette idée que nous sommes dans des décors truqués, pour reprendre un de ces titres, me semble tout à fait essentiel. C'est des vraies interrogations philosophiques. Tu as parlé, il y a aussi toute l'idée de l'irréalisme, Berkeley et compagnie, il y a l'idée du solipsisme, c'est-à-dire parce que je ne suis pas moi-même c'est quelque chose de chouette de voir aussi. Il ne faut pas faire peur non plus, parce que c'est quand même un formidable raconteur d'histoire.
On peut peut-être juste donner un exemple avec une nouvelle pour les gens qui n'ont pas lu. Là, je pense à une nouvelle très courte qui s'appelle La fourmi électrique, qui se passe dans un futur un peu de pacotille. Et il y a un chef d'entreprise qui a un accident, qui amène l'hôpital suite à cet accident. Et il s'inquiète un peu, parce que on va l'opérer, et au moment où on l'ouvre, on réalise qu'à l'intérieur, ce sont des bobines. Et que c'est pas un être humain, c'était un androïde. Mais lui, il ne savait pas. Donc on lui dit, on ne peut pas fonctionner à l'hôpital, il y a un réparateur qui va venir, il change la pièce. Et lui, dans sa tête, il dit, c'est pas normal. Et il décide de faire des expériences en prenant les bobines qui tournent et en les ralentissant. Ou en rajoutant des trous dans les perforations. Les bandes magnétiques n'existaient pas, c'était des bandes perforées. Et le problème, c'est qu'en faisant cela, le réel se met à se modifier. Alors qu'est-ce qui change? C'est sa perception du réel, ou est-ce que comme il change sa perception du réel, toute la réalité bouge? Et ça, c'est une vraie nouvelle. Et voilà, tous les thèmes sont concentrés.
Il a une intuition, on peut dire qu'il est malin, ou alors une belle intuition, c'est qu'il s'attarde assez peu, c'est ce qu'il fait, on l'a vu aussi, merveilleusement lisible. Il s'attarde assez peu, et quand il s'y attarde, c'est assez moins bon, sur les innovations technologiques. Parce qu'il n'y a rien qui vieillit plus que la façon dont on imagine les objets du futur, quand on les imagine en 1960, pas complètement. Tu avais l'exemple des vampires forêts, la carte libre, c'est un coup de peau, mais pour le reste, par moments, sur la science-fiction, franchement, on y trouve un certain charme, mais un côté ridicule, dans la façon dont ils évasent, ou dont ils communiquent, avec des. Là où vous dites qu'il est fort, c'est qu'il évite ça le trois quarts du temps. On prend un vaisseau pour aller à l'autre planète, point. C'est comme aujourd'hui, on dirait je prends l'avion. On va pas rentrer dans les détails, parce qu'effectivement, il a dû avoir l'intuition que trop rentrer dans ce genre de petits détails rend parfois la lecture à certains aspects un peu désuets et on n'est pas dans une adhésion totale. Moi aussi, ce à quoi je suis sensible, et c'est ce qui me fait aussi aimer l'anticipation, c'est que je pense que c'est un très grand auteur anti-totalitaire, au même titre que Orwell, un très grand auteur anti-totalitaire. Tu as parlé de Radio Libre Abolus, qui est un avis des meilleures descriptions de la fascisation des États-Unis à l'époque de Nixon. Comment une démocratie vire tranquillement sans s'en rendre compte au totalitarisme. Donc à ce titre-là, et il a perçu quelque chose qui était orwellien aussi, qui était que. Finalement, le meilleur moyen d'assurer le pouvoir sur l'autre, la domination d'une caste sur l'autre, c'est de lui faire croire à une réalité qui n'est pas la réalité. Je pense à un roman qui s'appelle La vérité avant-dernière, qui est La vérité avant-dernière, qui est finalement une humanité qui vit sous terre parce que, soi-disant, en surface, c'est une guerre nucléaire qui a rendu l'ensemble de la Terre invivable. Donc tout le monde vit dans une espèce de fourmilière. Terrifiante, et puis en haut, je vous dévoile pas le roman parce qu'on sait assez vite dans le roman, en haut, ça se partage entre quelques centaines de grands. La guerre est finie très longtemps, et ça se partage entre quelques milliers de types formidablement riches qui vivent dans les domiciles le plus total avec de magnifiques des propriétés à l'échelle d'un continent. Et donc, ça c'est, et parfois c'est encore plus subtil, là c'est comme la femme éclair, mais c'est cette idée finalement que le meilleur moyen d'assurer la domination, c'est pas mettre la domination d'une caste sur une population, mais pas forcément de mettre des flics dans la rue, des chars, ça c'est un peu old school, un peu vintage, c'est de lui changer la perception de la réalité à l'insu même de ceux qui vivent dans cette réalité.
Et une citation de Camille que j'aime bien, peut-être vous saurez d'où elle sort. On vit effectivement tous dans la caverne de Platon, mais les films qu'on nous passe sont vraiment drôles.
Est-ce que quelqu'un va réagir?
Ça rejoint la notion de Stoke, effectivement, le pouvoir en racontant des histoires aux gens par médias. ou par leur discours. Je crois que c'est très présent aussi.
Et d'ailleurs, dans la vecteur en Allemagne, effectivement, le départ, avec c'était dans les années 80, je pense, où un Allemand en fait un documentaire et refait en fait toute l'histoire complètement, en fait, en. Donc il y a une version pour les Occidentaux, une version pour le bloc communiste en fait, ou pour le bloc communiste en fait, Hitler, de Churchill, Roosevelt, tout à fait d'accord pour, voilà, et dans le sens évidemment, donc tout est faussé complètement avec un faux documentaire, de fausses images et tout, mais en fait dans ce roman, tout vient de là pratiquement, c'est le successeur de ce cinéaste qui continue à faire croire au peuple en dessous, que la guerre continue avec des studios immenses qui sont installés à Moscou, où en fait on détruit les maquettes de ville pour montrer, vous voyez, les ruines d'une attaque de San Francisco, enfin bref. Mais c'est vraiment l'univers de la Dick, ça. C'est limite même presque de la schizophrénie, mais c'est un petit peu ça en fait. On est vraiment dans un monde totalement halluciné, et la plupart de ces romans, c'est cet aspect-là.
Tout à l'heure, on évoquait une chronie, donc ces histoires parallèles. Philippe Kelly a écrit une des plus grandes du chronie, Le Maître du Haut-Château, qui vient juste d'être retraduit avec même des bonus, des chapitres qu'il avait écrits pour une suite qu'il n'a jamais faite, où il imagine que devient le monde après la victoire de l'Axe. Donc les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale, et les nazis et les japonais se sont partagés les États-Unis. Mais il ne fait pas ça sur un mode triomphant, c'est la vie au quotidien. Comment est-ce qu'au quotidien on va vivre dans une société nazifiée, mais c'est aussi une société pacifiée. Donc c'est assez terrible à dire, mais comme c'est un roman philosophique, il y a un auteur culte qui, lui, a écrit une chronie dans laquelle il imagine que se passerait-il si les alliés avaient gagné. Donc on a comme ça cette sorte de demi-miroir que l'on met face à face, avec tout un glissement progressif sur, sur la fiction, sur le mal.
Lorsque le gouvernement japonais en fait se retrouve, tout ce qui est passé, il se retrouve tout d'un coup, lui, petit chinois immigré, dans l'autre réalité en fait.
Une hallucination.
C'est un bon uchroniste, parce qu'il n'y a pas des bonnes, des uchronies, c'est que comme tu as insisté pas du temps, il ne se sent pas obligé de faire deux pages en italique au début en expliquant 1944, parce que ça c'est quelque chose que vous disiez régulièrement, les uchronies, c'est une forme de paresse intellectuelle qui, de la part de l'écrivain qui présente avant les conditions historiques, comme ça, l'anglais c'est beaucoup plus facile. Là, c'est, si vous ne savez pas que les nazis ont gagné la guerre, on ne va pas vous dire directement. Dans le roman, vous allez le découvrir très progressivement et comme une forme justement à travers une vie quotidienne, il y a ces petites altérations, pas plus, pas moins, et c'est là qu'il y a un vrai génie, parce que là c'est toujours facile de faire un manuel à la vie, un manuel d'histoire uchronique en racontant, en allant arriver, en disant voilà, la date de divergence c'est 1944 parce que le département rate, ou je sais pas, voilà, ou parce que les V2 arrivent sur Washington, on l'explique, oui, mais là, c'est 40 ans, c'est un peu, voilà. Et donc, bon, c'est parti comme ça, c'est ça, la force des bonnes uchronies est fondatrice, cette logique, parce que, à la limite, la figure de l'écrivain qui raconte la véritable histoire, qui est celle qu'on connaît, c'est quelque chose qui est devenu après presque un lieu commun dans cette uchronie. Il y a toujours quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, témoigne de notre réalité à nous, quand même. Là, chez Dick, ce qui est intéressant, c'est cette façon très ce glissement progressif, on va du plaisir, mais du dévoilement qui est fait avec une forme de poésie en plus. Ça, on a commencé à oublier Dick est un auteur d'une grande poésie. Il n'y a pas ce côté, moi qui parfois m'a éloigné de la science-fiction chez les grands noms de la SF de ces années-là, de art science comme ça. Moi j'ai du mal avec ça, il y a des auteurs qui adorent ça, des lecteurs qui adorent ça. Moi j'ai un peu de mal, c'est au contraire une vision très, très poésie chez Dick, ubique la façon dont le monde régresse vers les années 50. Ce fait, il faut peut-être expliquer ce qu'est ubique.
Ubique, c'est 80 pages qu'il faut passer. C'est les 80 premières pages où on a tous les poncifs possibles de science-fiction. Donc les femmes qui portent des tenues transparentes avec les seins qui pointent, les fusées gigantesques, les sociétés qui ont qui engagent des mutants au pouvoir mentaux pour lutter contre de méchants mutants et tout. Et on arrive à la page 80. Et il y a écrit, et tout à coup, la bombe explosa. On saute une ligne, et à partir de là, on passe dans un autre livre, vraiment un autre livre. Et nos héros, qui étaient embarqués dans une aventure trépidante, et bien, tout d'un coup, autour d'eux, tout se met à régresser. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est comme si vous aviez votre téléphone portable, et bien d'un seul coup, ça devient un téléphone portable des années 80, puis après ça devient un téléphone filaire, puis après, ça, voilà, l'objet reste, mais il régresse dans le temps. Donc, eux, la grande question, c'est qu'est-ce qui nous arrive ? Est-ce qu'on est vivant ? Est-ce qu'on est mort ? Est-ce qu'on est quelque part ? Et tout le monde nous embarque.
Et ça, je tiens, parce que j'ai envie de partager ce livre, c'est que je trouve qu'il est une grande poésie. Je me souviens d'une scène où je descends de l'ascenseur dans un palace, où ça commence dans un palace du futur, et au fur et à mesure où l'ascenseur descend, nous avions en particulier un ascenseur des années 60, et on finit dans les ascenseurs des années 30, qui se rouvrent comme ça. Il y a une forme de temps de descente de l'ascenseur. Il y a une forme de poésie, mais profonde. J'ai dit que l'hallucination est angoissante, mais il y a aussi une grande poésie et même une forme de grande mélancolie aussi. Donc, voilà.
Et un humour. On peut rester sur une ligne, parce que le personnage principal qui a un raté, hein, c'est Joe Chip. Et qui, donc ça commence, bon, il est très brillant quand il travaille, mais dans sa vie humaine, ça, il rate tout. Et notamment, il vole de l'argent à son immeuble, et il n'a plus de pièce de monnaie pour faire marcher la cafetière, et surtout, il n'a plus la pièce de monnaie pour ouvrir la porte. Donc il se retrouve coincé chez lui, et il menace de fracasser la porte, et la porte lui répond, parce qu'elle a une intelligence artificielle, que si jamais il fracassait la porte, elle lui intenterait un procès. C'est du UNESCO.
C'est-à-dire que c'est tellement de bons scénarios, Dick, qu'il a réussi à donner son plus grand rôle. Enfin, lui, à Schwarzenegger, le film de Total Recall, qui est extraordinaire. C'est objectivement un très grand film, on paraît que l'image est très fade, là, mais est très fadouille. Mais c'est l'idée, par exemple, qui m'a. Après, ça convoque certaines de nos névroses ou de nos peurs. Qui suis vraiment. Est-ce que mes souvenirs sont m'appartiennent en propre ? C'est très agréable de se percevoir, en fait, qu'on vit simplement depuis 5 ans seulement comme Blade Runner, ou au contraire, que on est. Ce que je vous parle là, je suis persuadé d'avoir une vie derrière, qui est. J'ai rentré chez moi et je vais m'avoir plein de choses. Parce que la drogue arrête de faire effet ou l'implant ou ce que vous voulez, et qu'en fait j'ai totalement, je suis peut-être personne dans ma chair d'avoir vécu 47 ans dans telles conditions, en fait c'est pas vrai du tout. J'ai eu une vie radicalement différente, et ça, moi personnellement, ça me terrifie. Voilà, on sait jamais.
Moi j'ai une petite anecdote personnelle concernant un direct, en tout cas concernant Dick. Un jour je reçois un téléphone de Jean-Marc Louvicier. Jean-Marc Louvicier, c'est un Français qui travaillait à Hollywood, qui a une magnifique carrière, qui a travaillé pour George Lucas, pour Cartoon Network, pour Marvel, DC Comics, etc. Et un jour, Jean-Marc me dit « Est-ce que tu veux déjeuner avec Michael Moorcock ?» Alors, j'ai dû m'évanouir, enfin avoir un AVC, un petit AVC, je me suis relevé. Et je lui dis oui, donc quelques jours après, je me retrouve dans un bistrot parisien, et il y avait Jean-Marc Louvicier et Mike Moorcock, j'ai un sorte de filet de bave permanent à la bouche, et pour une fois, je ne parlais pas, donc j'ai écouté. Et voilà le dialogue, mais pas entre deux écrivains, pas entre deux spécialistes, entre deux potes, et c'est donné ça. Quand est-ce que tu l'as connu, toi ? Attends, ça doit être en 76. Non, en 76, il était déjà timbré. Il paraît Dick.
Ça. Il y a une biographie qui a été écrite par sa fille, non ?
par sa deuxième femme. Troisième. Philippe a dit que les femmes se rencontrent. Il a été marié 5 fois. Voilà une vie personnelle extrêmement compliquée.
Est-ce que cette biographie de Philippe,
oui.
Est-ce qu'elle apprend des choses sur, intéressantes ou pas du tout?
La biographie est exceptionnelle parce que justement, elle commence par raconter sa vie. Donc c'est à la fois ses souvenirs à elle de la période où ils vivaient ensemble, qui était une période de très très heureuse pour Dick. Puis après, elle est allée voir les autres femmes. Puis après, elle a fait tout un travail d'enquête. Et donc, avec des témoignages systématiquement de première main qui permettent de restituer le portrait extrêmement complexe de la vie personnelle de Philippe K. Dick. Deux choses. Il avait une sœur jumelle. Donc, à la naissance, c'était Philippe Dick et Jane Dick. Sauf que Jane est morte au bout de quelques semaines de malnutrition. C'était 1928. Donc, les restrictions, l'affaiblissement. Les parents sont persuadés que Philippe ne va pas survivre. Donc le père prend les mesures et il achète une tombe double. C'est pragmatique. C'était pas un grand sentimental, son père. Et ce qui fait que Philippe a dit qu'il a vécu toute sa vie, il avait la tombe de sa sœur, mais à côté, c'est marqué Philippe. Et dans ses romans, enfin, on peut lire, mais on voit constamment les images du double. La femme absente, la jubilité, ça revient constamment. Il a recherché sa sœur. Voilà. Il a dit à sa femme, quand sa première fille est née, maintenant Jane est compensée. Donc c'est très lourd. Et puis il ne faut pas oublier, parce qu'en 1974, en février-mars 1974, Philippe K. Dick a fait une série de visions mystiques qu'il n'a jamais pu expliquer jusqu'à la fin de sa vie. D'authentiques visions qui n'étaient pas trop vivées. Il était en train d'écouter les Beatles. Il a eu cette communication directe avec le divin, qu'il n'a jamais baptisé Dieu. Il a cherché à comprendre toute sa vie durant, enfin, les dernières années de sa vie, ce que c'était. Ça représente 8000 pages, ces notes. 8000 pages, c'est aucun ça. Hein. Et ça va être traduit, c'est actuellement traduit en français, ça va sortir en France l'année prochaine. Donc une sélection de ses notes philosophiques, ça s'appelle l'exégèse, où il envisage toutes les possibilités pour comprendre ce qui lui est arrivé. Alors, est-ce que je suis fou? Est-ce que c'est un satellite qui m'envoie? Le but raconte ça. Est-ce que c'est un satellite qui me communique des informations? Est-ce que c'est une expérience soviétique? Dieu m'a parlé? Il n'a jamais exclu aucune possibilité. On pense, que les diagnostics, qu'il aurait pu faire une épilepsie du lobe temporal, dont justement les caractéristiques évoquent ce genre de vision-là. On sait rien, il n'a jamais été diagnostiqué. De même que malgré tous les psychiatres qu'il a pu voir durant sa vie, il n'a jamais été diagnostiqué. Est vraiment paranoïaque, ça c'est certain. Mais il y a ce problème-là. Là aussi, ces derniers romans qui racontent de manière romancée ce problème divin. Donc, c'est ce qu'il a raconté quand il est venu en France. Il est sorti des États-Unis 2 fois dans sa vie. Une fois pour aller au Canada, il a tenté de se suicider, après il a menti à des docteurs pour se faire interner. Il a menti. Mais bon. Et l'autre fois, il était en France, à Metz, et il a fait tout un discours où il raconte comment il a rencontré Dieu. Alors imaginez, en 77, les lecteurs de science-fiction qui venaient voir le grand écrivain contestataire américain, avec sa légende de mangeur de cachet, de fumeur et de tout ce que vous voulez. Et lui, il leur parle de Dieu. Donc, voilà une incompréhension totale. Alors, s'il était fou, j'en sais rien. S'il avait des préoccupations compliquées, ça, j'en suis convaincu. Mais bon.
Il y a quand même
Bon, il faut aussi, bien sûr qu'il n'y avait pas un état psychique. Il y a quand même quelque chose qui est vrai, parce que je disais tout à l'heure, même parallèle avec le suivi, c'est qu'il a fait partie de ces écrivains surveillés par le FBI, et d'ailleurs, qui a été, parce qu'il était très proche avec, du mouvement contestataire, du mouvement anti-Vietnam, du Vietnam. Nixon était sa bête noire, et je pense que c'est un des écrivains qui finalement aura le mieux rendu compte de la paranoïa qui a régné de cette période et de la façon dont l'Amérique perd de rien, glissait tranquillement vers le fascisme. Il y a un film de Peter Watkins que je vous recommande, qui s'appelle Michelin Park, qui évoque ça, qui évoque exactement, qui est un film extraordinaire, un faux documentaire sur qui est tourné à la même période, qui imagine pareil que j'ai dit dans Radio, un léger glissement de plus, le mandat trop de Nixon, sans l'affaire de Watergate, ce qui est extraordinaire, Michelin Park, Peter Watkins. Et donc, il est très titien, ce film, finalement, parce que c'est un faux documentaire, etc. Et qui raconte des chasses à l'homme organisées contre les étudiants contestataires, ça revient à ça, il y a deux exceptions. Et Dick a quand même vécu, c'est assez comparable, toute chose égale, à ce que pouvaient être les dissidents soviétique de l'autre côté à l'époque. C'était quand même, il était très 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 piqué. Il y a un livre qui est paru chez Jean Michel il y a quelques années, c'est des écrivains de FBI qui racontent justement comment les écrivains américains avec Hoover, stupidement glorifié par Clint Eastwood, qui fait pas, qui dit aussi des conneries, qui montre que vous avez la fine fleur de la littérature américaine est surveillée de très près par le FBI. Émis sur écoute, etc. Et Dick en faisait partie. Hein. Dick en faisait partie, il était vraiment surveillé. Alors c'est sûr qu'il n'y avait pas des satellites qui envoyaient des ondes directes, mais il y avait des flics qui pouvaient être devant chez lui. Voilà. Donc c'est quand même, ça a été un écrivain contestataire, et un écrivain contestataire dans les années, au moment de la montée en puissance de la guerre du Vietnam, notamment sur les dernières années 68-69-70, c'est quelque chose dont on a oublié un petit peu à quel point ça a été violent. Il y avait des morts sur les campus. Hein, il y avait quand même des morts sur les campus. L'armée entrait sur les campus, tirait sur les étudiants qui ne pouvaient pas partir, qui s'opposaient à la guerre, et dit qu'il était partie prenante de ce mouvement. Et ça c'est aussi quelque chose qui peut en partie aussi. Alors, c'est avant 74, avant le flash mystique, mais ça me semble important aussi. Il faut aussi le lire aujourd'hui comme un grand auteur anti-totalitaire ou un grand auteur qui est un auteur politique de vraie opposition au danger que même les démocraties portent en elles.
Autre petit point, si vous permettez, à propos de Punishment Park, il y a pas longtemps, j'ai vu la télé, qui a diffusé Punishment Park, c'était la mine d'Afrique du Sud, les mines d'Afrique du Sud. Deuxième point, j'ai entendu récemment sur France Culture Philippe Hu qui parlait de ce qui avait fait venir Kadic à Metz, qui disait que Kadic avait quand même aussi tendance à se moquer un peu de ses interlocuteurs, de jamais vraiment jouer franc jeu et de toujours donner l'impression du lard quelque
chose. C'est un séducteur.
Oui.
Donc, si on fait un travail de moitié sur lui, il faut se méfier des interviews. Si son interlocuteur. Du mal d'un de ses romans, lui, va aller dans son sens. Pas uniquement qu'il parle de littérature française quand il vient en France. Voilà, c'est une part de séduction. Par contre, aux États-Unis, ils ont publié 6 volumes de sa correspondance. Là aussi, un écrivain de science-fiction, donc il publie la correspondance. Où là, il est beaucoup plus honnête. Enfin, sauf quand il écrit à ses éditeurs, mais quand il écrit à sa famille, où il raconte des choses, là, il va beaucoup plus dans la sincérité. Mais voilà, ça fait partie un peu du jeu. Pendant des années, il a pris de façon industrielle des amphétamines, qui à l'époque étaient distribuées légalement, il suffisait d'avoir un médecin et qu'il vous prescrivait. Bon, le problème, c'est qu'un seul médecin, ça ne suffisait pas, donc il allait voir plusieurs médecins et qui lui prescrivaient, et il savait quoi dire. D'ailleurs, je pense que c'est exactement la même chose qu'il y a eu Balzac. Balzac, c'était les litres de café qu'il buvait pour pouvoir écrire. Bon, on m'a dit que ça a été caché dans le film.
Ils sont l'histoire du jumeau décédé. il était pas arrivé la même chose à James Webb, je sais pas, c'est pas ça qu'on avait vu. Quand on avait vu qu'il tombait à Blanc, c'était pas ça.
Elvis,
oui, c'est vrai.
C'est dur parce que les scénarios ne sont pas simples et que, effectivement, quand on rentre dans la réalité, qu'on ne sait plus si ce qu'on lit c'est la réalité ou si c'est un fantasme, bon, et puis que ça s'interconnaître, c'est de plus en plus compliqué. Mais c'est facile à lire parce que c'est une écriture très simple. Et je me rappelle qu'on lui avait, enfin, en France, en tout cas, on avait beaucoup reproché, enfin, bon, je vais dire un peu, mais à dire son écriture simpliste. Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en avez à dire.
La meilleure preuve, c'est qu'actuellement, il est réédité, alors soit dans des nouvelles traductions, donc là il y a Bedrunner, sur les androïdes, avec les boutons électriques, qui est la nouvelle traduction à sortir, les trois derniers romans, la trilogie divine, une nouvelle traduction également, et sinon il y a des gros volumes en traduction qui sortent, et là aussi des traductions révisées.
Pour être honnête, c'est pas du luxe quand même, parce qu'il y a un vrai problème, parce que pour la série noire des années 50-60, c'est-à-dire que je parlais, ça peut être même un obstacle par moment pour certains romans, tellement c'était traduit à l'arrache, parce que c'était les années. Vous allez voir du genre, ça fait une bobette en martien. Il y a vraiment une forme de c'est pas des luxe qui vivent vos traductions. Ça avait été fait pour la personne, il fallait sauver au bras de l'œil aussi, parce que c'est pas une nouvelle, ce sont pas retraduites. Et c'est la même arche. C'est, il y aurait quelque chose aussi à s'interroger sur le fait que c'est fonctionné davantage en France, je crois que c'est vrai, d'ailleurs, aux États-Unis, parce que dans le grand roman, il y a d'autres cas de ce genre, des auteurs aussi importants que David Goodis, Jim Thompson et Chester Himes étaient même à la fin traduits d'abord par la série noire avant même d'être publiés aux États-Unis. C'est-à-dire que il y a toujours eu cet accueil de partie du public français à littérature de genre, SF ou polar, j'ai une hypothèse, vaut ce qu'elle vaut, c'est qu'il n'y a pas eu en France, il y en a, mais pas autant aux États-Unis, formé plus de place pour cette littérature, comme s'il n'y avait rien à en tirer. C'est beaucoup moins, on vous reproche souvent de faire de l'intellectualisme, on était capable, au contraire, dès l'après-guerre, de traduire énormément d'auteurs américains d'abord dans le roman noir, puis dans la science-fiction, ce qui fait que, voilà, arrêtons l'autodiffusion de ce côté-là, en tout cas.
Surtout, on les voit au fond avec une couverture métallisée. C'est en arrivant en France que Dick a découvert justement que, ben, c'était de beaux livres. Les traductions, c'était de beaux livres. Et qu'il a pris conscience qu'il représentait quelque chose. Il se posait énormément de questions sur sa place par rapport à l'écriture et s'il était un écrivain ou pas. Et c'est en venant en France qu'il a compris ça. Que dans le regard des autres, il a vu qu'il était quelqu'un. Mais bon, à la fin de sa vie, la majeure partie de ça, la plus grande partie de ses revenus, le revenu de ses productions, plus de ses ventes sur le territoire national.
Que ça se complique au fur et à mesure, qu'on parle à la fois de science-fiction et il parle aussi de...